تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page. Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine culturel, littéraire et musical. Rock and Page, c'est le rendez-vous que je vous fixe chaque semaine sur vos radios préférées, vos radios engagées, émincées par rien, par les temps qui courent. Moi, je lis et avec vous, je partage. Et pour le faire, je propose aussi une sorte de fil d'Ariane musical aux bouquins évoqués, histoire de faire tomber les murs idiots et inventés par quelques trouillards. Ces murs qui viseraient à différencier celles et ceux qui aiment lire et celles et ceux qui aimeraient la musique, comme s'il ne s'agissait pas au fond de la même chose. Bref, et puis parce qu'au-delà encore de ce goût pour la musique et des mots, ce que je préfère, ce sont les rencontres. Je me suis entourée. Une fois par mois, c'est avec Bibio Manu que vous avez rendez-vous pour une exploration au cœur des littératures qui foutent la trouille. Une autre fois par mois, c'est avec Catherine Rochette que nous avons rendez-vous. Et elle, c'est sa passion pour le cinéma qu'elle partage. Et enfin, ce sera le cas d'ici une poignée de minutes. Une autre fois par mois, c'est Mademoiselle Amo qui vous fera arrêter vos montres hystériques pour éclairer en musique et de façon tout à fait personnelle et subjective le sens d'un mot d'un seul, le sien, le mot d'amour. Et avant de laisser la parole à Mademoiselle Amo, justement, et histoire de finir de brouiller les pistes, pas de bouquin aujourd'hui dans Rock and Page, mais plein feu sur le festival Tropisme, qui se tiendra à Montpellier du 25 février au 15 mars prochain, qui investira notamment la Panacée, mais aussi le Rockstore, la scène de Humain Trop Humain, ou encore le Centre National de Chorégraphie, et qui propose une programmation suffisamment riche et dense, engagée aussi vers demain, que de telle sorte que je ne pouvais pas m'y arrêter un grand coup. Pour en parler bien mieux que moi de ce festival, qui va tous nous inviter à nous questionner, j'ai invité son nouveau directeur artistique, qui est aussi un enfant de la maison Divergence FM, à savoir Vincent Cavaroc. Vincent, salut.
Salut tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Rock and Page. Tiens-toi prêt, on se retrouve juste après ce morceau d'Acide Arabe, Berberian Wedding, que j'ai choisi pour annoncer sans blabla le caravansérail. Je cite votre édito, que vous vous apprêtez à nous offrir pendant pas loin de 3 semaines complètes avec ce festival Tropisme qui va avoir lieu à Montpellier. Allez-y, on écoute. Acide Arabe, Vincent Cavaroc avec Berberian Weddings. Qu'est-ce que cela t'évoque au sujet du festival dont tu es le directeur artistique Tropisme ?
Bah, Acide Arabe, ça sera un peu le clou du spectacle, c'est-à-dire en fin de festival, le 14 mars, on fait une grande nuit, histoire de se prélasser un petit peu, mais façon un peu énervée, façon clubbing. Et c'est la nuit Versatile. Acide Arabe, c'est un des groupes phare du label Versatile, ouais. Label parisien qui a une quinzaine d'années.
96, créé ouais. Par Gilbert Cohen.
Exactement, et Gilbert Cohen, il sera justement aussi sur le line-up ce soir-là. Une soirée partagée au Rockstore, 23h-5h du mat, histoire bien de se la coller, avec Gilbert Cohen, Acide Arabe et Joachim qui est un enfant du label aussi, qui a fondé Tiger Sushi par la suite. Aujourd'hui, il n'est plus édité chez le label, mais bon, à travers lui, c'est tout un pan de l'histoire du label qu'on questionne. Et il vient spécialement de New York pour ça. Ça m'évoque aussi que la carte blanche au label, elle sera aussi visible pour une autre soirée, 2 jours avant, au HTH, ouais. Humain Trop Humain.
On y viendra, ouais. Avec Jean Pinlevé.
Exactement, et Zombie qui est un enfant vraiment du label Versatile.
Quand on arrive à ce poste de directeur artistique du festival Tropisme, qui est porté par Illusion et Macadam, il faut le rappeler, j'imagine que pour construire une programmation, Vincent, on se demande sur quoi on veut que les gens, en plus du plaisir qu'on va leur offrir, sur quoi on veut qu'ils se questionnent.
Ouais. Bah, moi, clairement, ça a été se questionner sur la question du vivre ensemble, au sens que je pense que la plupart des festivals ou des centres d'art aujourd'hui, surtout les institutions culturelles, sont souvent des endroits aussi d'interdiction et de frustration. On contraint les gens à regarder ça et pas ça. On contraint les gens à être derrière une ligne et pas devant. On peut pas parler, on peut pas manger, on peut pas boire. Finalement, c'est un peu une privation de ce qui fait la question de la vie et de l'habiter. Et moi, je suis parti sur un principe transversal à tout le festival. Ça s'appelle la machine à habiter. C'est une référence au Corbusier. Et cette machine à habiter, c'est pour dire, OK, le festival, on va l'habiter, on va habiter le centre d'art, on va habiter la ville, on va habiter collectivement tous ces espaces, sans frontières, sans symboles. Et habiter, ça passe par manger, ça passe par danser, ça passe par se relaxer, dormir, ça passe par dormir, ça passe par cogiter, par travailler aussi, parce qu'on habite beaucoup nos vies par le travail. Enfin, je pense que quelques auditeurs sont du même avis. Et donc, j'ai convié le collectif Existe à penser toutes ces fonctions au sein de la Panacée.
Alors, c'est un moment très fort pour eux, parce que ce collectif réunit des graphistes, des botanistes, des scientifiques, des architectes, des constructeurs. Et après ça, annoncé partout par votre festival, c'est fini pour eux, quoi.
C'est fini, ils se suicident à la fin, temple solaire, comme ça, on fait un grand truc, on fout le feu, ouais. Et on brûle 17 personnes, comme ça.
Excellent.
Non, c'est vraiment 12 ans de collectif derrière eux. Ce sont des personnes qui ont vraiment influencé la façon dont on peut imaginer l'architecture, l'urbanisme et la création de situations de vie. Ils prennent un rond-point, ils prennent une vieille friche industrielle, ils prennent un parking ou un centre d'art et ils en font un lieu de vie total avec la possibilité de se baigner, de dormir, toutes les fonctions que je disais avant. Et effectivement, ils nous font le cadeau de faire leur dernière action. On ne parle pas d'exposition, eux, ils parlent d'action. Moi, je parle de festival là, au sens large, parce que ce n'est pas une expo, tout ce qu'on présente. Et ils font cette dernière action ici pour Montpellier et pour Tropisme. Et finalement, c'est presque un best-of. On est allé chercher tout ce qui a le mieux marché en 12 ans. Ils vont aussi convier toutes les personnalités importantes qu'ils ont croisées pendant 12 ans dans leur travail, qui vont venir alimenter un fil un peu théorique sur la question de l'habiter maintenant. Et ça nourrira une publication rétrospectif pour les 12 ans.
Bon, alors une question que je me suis posée en préparant l'émission et avant de te laisser aux manettes de nos platines. Cette soirée qui aura donc de ciné-concert à Humain Trop Humain et qui sera autour de l'œuvre de Jean Painlevé, hein, qui est tout à la fois un précurseur, une sorte de précurseur de Cousteau en fait.
Exactement.
Mais qui après, par des rencontres, a aussi rencontré les surréalistes, etc. Et moi, je souhaitais savoir si c'est son travail autour de l'antifascisme que vous avez voulu mettre en avant, ou si c'est plus son côté complètement timbré, qui croise le surréalisme avec les fonds marins, par exemple, ou ce genre de choses.
Bon, c'est plutôt le deuxième aspect, même si le premier est en filigrane, mais c'est le deuxième aspect. Il faut se dire que Jean Painlevé, effectivement, c'est un peu un Cousteau avant l'heure. Et dès les années 30, 40, 50, alors qu'il n'y avait encore que du noir et blanc, des techniques pauvres de captation vidéo, il a un peu révolutionné la façon de filmer les fonds marins, mais c'était un vrai océanographe. Et surtout, il a fasciné de son temps toute une classe de musiciens et d'artistes. C'est comme si Cousteau, on lui disait, tiens, c'est Aphex Twin qui a fait les musiques du dernier Cousteau, quoi. Mm. Et bien, c'était ça. C'est Pierre Henry, c'est François de Roubaix, c'est Breton. Pierre Schaeffer.
Mm.
C'est
Ligo.
Tous, exactement. Toutes ces personnes sont fascinées par son univers. Et son univers, c'est quoi? C'est filmé. Ces films sont assez explicites dans les noms. Ça s'appelle Le Poulpe, La Pieuvre, L'Hippocampe, Les Cristaux Liquides. Et ça, je vous le conseille. Il y a un film, c'est Les Cristaux Liquides. Et on comprend. Ah merde, tiens, les cristaux liquides, c'est pas Thomson qui les a inventés pour les foutre dans mon salon, là, dans la télé. C'est un phénomène naturel. Et il continue aujourd'hui à fasciner des gens, et c'est le cas des zombies, qui à un moment donné se sont dit « Waouh, putain, c'est ok, c'est un gros challenge de se rattaquer à ce monstre-là ». Et donc, on va avoir une sélection de films marins de Painlevé, mis en musique et revisité par Zombie. C'est que la troisième fois qu'ils feront, ils ont créé ça au Louvre pour une carte blanche à Rubinsteiner il y a 2 ans, un truc comme ça. Ils l'ont refait une fois à Scopitone à Nantes et maintenant, voilà.
Parfait, on a hâte de voir ça. Alors, pour préparer l'émission, je t'avais demandé de venir avec ton lecteur MP3 et de nous amener un titre pour illustrer un petit peu cette édition 2015 du festival dont tu es le directeur artistique, Vincent Cavaroc. Qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi ?
Ben, je choisis un morceau de Juliette Armanet. Alors, c'est un jeune pousse de la pop, électropop française. Et je trouve que c'est un bon exemple de la programmation avec, qu'on va créer avec les Inroclabs, c'est-à-dire que tous les mercredis et tous les vendredis pendant le festival, on va faire un concert avec les Inroclabs sur la scène découverte. Et forcément, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas pour la plupart, mais justement, il y a eu un filtre avant qui s'appelle les Inroclabs, qui eux font ce travail de sélection au quotidien, d'essayer de trouver des gens qui ont la niaque aujourd'hui dans le panorama musical français. Et je trouve que cette fille, un peu à cheval entre un Sébastien Tellier sans la barbe et une petite douceur un peu pop sucrée qui pourrait paraître bien mignonne, un peu fade, mais finalement elle vient toucher un endroit bien contemporain d'aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas se fier à la première impression, elle questionne des choses un peu plus profondes.
Ça, c'était un extrait choisi par Vincent Cavaroc, directeur artistique du Festival Tropisme, qui est notre invité aujourd'hui dans Rock'n Page. Une jeune artiste que vous pourrez découvrir pendant le Festival Tropisme. Vincent, alors, dans la programmation, une grosse part est laissée, et ça, je trouve ça mais juste un miracle, mais c'est tout à fait logique, aux enfants, puisqu'il sera question de demain. Donc, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Dis-nous, parle-nous de cette programmation pour eux.
Bah, c'est simple, moi je programme avec ce que je vis. Je suis un jeune papa, je me dis que quand on est un jeune papa, on n'arrive plus à aller voir des spectacles ou des expos. Donc je me suis dit, tiens, si moi je devais être spectateur de mon propre festival, il faudrait quand même que je les occupe, les gamins, pendant le temps que moi je profite. Parce qu'après, pour les adultes, il y a plein de trucs. Il y a un sauna, il y a un dortoir, il y aura des ateliers de bouffe. Donc je me dis, tiens, pendant le temps que je vais faire mon sauna avec tous mes amis, je mets mon enfant dans l'aile Trokids. Trokids, c'est la programmation enfant. Et elle est vraiment pensée comme un axe principal. C'est-à-dire, à partir de maintenant, je pense que chaque édition aura sa subdivision enfant qui s'appelle Trokids. Là, on est allé avec justement les Exists. Je leur ai demandé de créer un dance floor permanent, une discothèque pour les enfants. Ça s'appelle le Club Patate. Et entièrement fait en carton, avec du mapping à l'intérieur. Et ils pourront danser en permanence dans les heures d'ouverture, 13h-21h, non-stop. Et régulièrement, trois fois par semaine, il y a DJ Patate qui arrive. DJ Patate, c'est un peu toi et moi, mais habillé en patate, et qui va venir un peu les ambiancer. Juste à côté de ça, il y a un énorme atelier, ça s'appelle l'atelier Archibidouille, qui en permanence va leur permettre de construire plein d'univers, parce qu'on est vraiment sur cette question de l'habiter. Et donc, on a eu un partenariat avec la Maison de l'Architecture, on a 5000 K-places, c'est les petites boîtes, les petites...
planchettes en bois.
Voilà, planchettes en bois. On a des sélections d'applis, des choses comme ça. Ça, on a confié ça, la scénographie de ça, à un collectif d'archi qui s'appelle Parenthèse, qui est sur Montpellier. Et après, On a une œuvre qu'on est allé chercher chez Capitaine Futur à la Gaîté Lyrique, parce que notre identité, moi, c'est programmateur à la Gaîté Lyrique. Et là, c'est assez génial. C'est deux Japonais qui ont fait ça. C'est une projection au sol, type Google Street View au sol. Et les enfants deviennent Godzilla parce qu'ils marchent sur les immeubles et les immeubles s'effondrent. Donc un petit peu une dose d'ego en plus pour nos enfants qui pourraient avoir l'impression d'être, de caresser les passions de Godzilla. Et une salle de jeux vidéo, une salle d'arcade, mais qui est pensée comme une expo.
Pop-up.
Ouais, exactement. Ça, c'est un peu pour les plus grands. Il faut être ado et adulte. Et c'est 6 jeux vidéo indépendants programmés comme une expo par Nicolas Rosette et la scène nationale d'Evry. Et donc, ce sont des jeux qui sortent du circuit commercial et qui sont montrés là façon expo pour questionner cette question, arcade versus pop art, où est la frontière entre aujourd'hui l'industrie du jeu et certaines façons dont un Warhol pouvait penser à sa diffusion massive et ludique.
Bon, Vincent, n'oublie pas qu'il faut vermifuger ta fille de temps en temps. Hein. Compost aussi, le collectif, et la danse, parce que tu parlais de tes casquettes, tu viens aussi de la danse.
Oui. Je ne vous ferai pas le grand écart aujourd'hui, je viens plutôt de la production de la danse. Compost, un collectif qu'on suit depuis assez longtemps. Avec Illusion et Macadam, on produit leur travail. On est producteur délégué de une certaine partie de leur travail. On les avait retrouvé l'an passé sur un dispositif qui menait à une forme de conversation éclairée et différente. Là, aujourd'hui, ils viennent avec une création radiophonique au plateau. C'est-à-dire au plateau, c'est une forme de pièce de théâtre, mais radiophonique. C'est aussi dans la soirée HTH, le soir où il y a Zombie. Et là, ça mobilise une quinzaine aussi de lycéens amateurs sur la question de la conquête spatiale. On se re-questionne sur les utopies passées, comment aujourd'hui elles sont encore actives, ces utopies, on en manque d'utopies. Et c'est un dispositif radiophonique assez simple, sauf qu'il y a une mise en fiction, une mise en récit et de la vidéo et des choses comme ça. C'est une création dont le premier opus a été fait au Centre National d'Études Spatiales à Paris et qui va continuer comme ça à se développer. La danse, c'est une carte blanche qu'on fait à Maria Rerez, chorégraphe espagnole. On fait ça avec le Centre chorégraphique national de Montpellier dans le cadre de leur domaine. C'est aussi une pièce qu'on retrouvera pendant cette soirée du 12 mars au HTH. Non mais attendez, vous entendez cette soirée incroyable de la danse, du concert. On a aussi donc Compost et après on finit avec Étienne Jomé en DJ set et Cosmic Neyman. Dire là pour une vingtaine d'euros, moi j'y vais de suite. Je pourrais vendre de la paella les gars. Et voilà, et donc la danse, Maria Rerez, des univers très do-it-yourself. Ne pensez pas que vous allez voir l'Opéra de Paris, là. Hein. On parle d'une danse de création, de recherche. Et avec des petits objets, questionne notre univers technologique, notre quotidien lié aux technologies. Il y a un côté un peu désuet sur les technologies qu'elle utilise. Et ça nous questionne au bon endroit. Parce qu'effectivement, comme tu disais, cette question de l'anticipation du futur est aussi un axe transversal de tropisme, on le retrouvera notamment sur tout le volet rencontres professionnelles parce qu'on en a une trentaine.
C'est ça. Et on peut pas faire la liste de ce matin-là de tout ce que le festival va proposer. Moi, il y a ce que vous avez construit avec le magazine Usbek et Erika, c'est ça ?
Usbek et Erika.
Cette espèce de tribunal que vous allez monter et qui consisterait, c'est ça, à décider ensemble quelles idées il nous faut emporter dans le futur ?
Ouais, il y a un peu de ça. Usbek Erika, c'est un magazine sur le futur qui est basé à Paris. Et là, on leur propose pendant une semaine de délocaliser la rédaction dans la Panacée pendant le festival. Et donc, ils auront leur rédaction à vue du public. Et pendant une semaine, ils vont créer une gazette du futur. Et à la Gaîté Lyrique, il y a 3 ans, quand on a ouvert, avec eux, on a imaginé ces rendez-vous qui s'appellent les tribunaux pour les générations futures. L'idée est simple. On prend un sujet un peu clivant qui est lié au futur. Par exemple, la peine de mort, le travail demain. Mais là, justement, on va se poser la question de travailler demain, point d'interrogation. Est-ce que tous robots, tous humains, l'asservissement, où il est ? Et là, ils font un casting vraiment très pointu sur des gens qui soutiennent une thèse et ceux qui soutiennent la thèse opposée, mais avec des gens vraiment assez de haute volée. Et au début de séance, comme au tribunal, on va choisir un jury, donc des jurés parmi le public qui vont se mettre sur scène et qui vont écouter ça attentivement. Et à la fin, on leur demande aussi de prendre la parole et de se positionner chacun pour voir quelle thèse a emporté le succès ce soir-là. Et avec un modérateur qui est en fait une forme de procureur et un juge.
Donc le spectateur au cœur de la performance.
Ouais.
Alors, la question des publics, quand même, m'a traversée. Sur 3 semaines, est-ce que dans l'équipe, il y a une personne ou une équipe qui s'occuperait de faire venir celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de programmation ?
Ouais. Bah, nous, c'est un gros challenge. On passe de 5 jours de festival
à
3 semaines, historiquement, parce que Tropisme, pour le petit clin d'œil, c'est l'ancien Montpellier 100%, à 100%. Ouais. Donc 100% a muté. L'an passé, c'est devenu Tropisme. Et cette année, on passe à 3 semaines et avec toute une grosse centralité sur un lieu qui est la Panacée. Donc ça change beaucoup notre rapport au public. On a une personne, Élise Revel, super nana, qui là, depuis déjà quelques semaines, tisse des liens à fond avec des écoles, des centres sociaux, avec les groupes constitués en général, avec des médias aussi qui peuvent être liés justement aux enfants. Moi, je vais vraiment confier le bloc Trokid sur la partie publique. Mmh. Et elle le fait main dans la main avec la super équipe de la médiation de la Panacée, parce qu'ils comptent une équipe de 7 personnes à la médiation. Ils sont bien contents de se remettre à fond au boulot après quelques mois un peu flous sur leur devenir. Et donc, main dans la main, on travaille à essayer de réactiver tous les groupes, qu'ils soient scolaires, périscolaires, sociaux, pour avoir une mixité la plus totale, parce que notamment la programmation enfant, enfin, elle parle absolument à tout le monde.
C'est ça.
À tout le monde. On n'a pas besoin de venir d'être un bobo des arceaux
ou
d'être
faut juste venir à la
paillade. On y va, quoi. On y va et on s'amuse.
C'est ça. Très bien. Vincent, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu montes sur la table et au-delà d'avoir vendu de la paella, tu dises on a réussi Tropisme 2015?
Bah, ça, il faudrait que je revienne, que je revienne à ce micro le 15 mars. Je pense que j'aurai une voix comme ça, je ferai. On a réussi. Je vais me coucher maintenant.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Vincent.
Salut.
Sans transition aucune, c'est au tour de Mademoiselle Hameau.
Suicide. Acte délibéré de se donner la mort.
Un homme beau et intelligent, un homme pour qui la vie aurait pu être facile et heureuse, va se suicider. Et personne n'y comprendra rien, parce que apparemment ce suicide n'a pas de raison raisonnable. Quand Vatel se tue parce que la marée n'est pas arrivée à temps, tout est dans l'ordre, et cela s'écrit dans les livres d'histoire. Même motif pour le général vaincu, pour l'architecte dont le pont s'effondre, pour le mari bafoué et pour l'homme d'affaires ruiné. Et puis tout d'un coup, il y a Marilyn Monroe, et là, on ne comprend plus. Louis Malle, dans son film Le Feu Follet, a démonté la mécanique du suicide avec la minutie d'un documentaire technique. Et Maurice René, l'admirable interprète du Feu Follet, finit par ressembler étrangement à Drieu La Rochelle, auteur du Feu Follet. Drieu qui, tout comme son héros, devait se suicider, mais pas pour les mêmes raisons. Louis, avant de tourner Le Feu Follet, pendant plusieurs mois, vous avez préparé un film qui devait s'appeler, je crois, Assez de Champagne et que vous n'avez pas tourné. Et ce film, c'était déjà les prémices du Feu Follet. Donc, cette idée d'un film autour d'un suicide ou d'un homme qui est à l'abandon, vous l'aviez déjà dans la tête. C'est donc pas un hasard si vous avez choisi ce livre. Pourquoi ? Vous vous sentiez concerné ?
C'est-à-dire que la grande différence, c'est que le scénario sur lequel je travaillais ne se terminait pas par un suicide. C'était l'histoire d'un homme qui, pour un certain nombre de raisons, faisait un peu le tour de sa jeunesse, et puis il trouvait que ça allait bien comme ça, et il quittait Paris. Et il ne se suicidait pas, c'est justement toute la différence, et c'est assez important dans la discussion que nous entamons, c'est qu'en fait, si vous voulez, à la fin du Feu Follet, le personnage se tue, mais moi j'ai été très frappé par le roman de Drieu, et je l'ai suivi naturellement, et c'était le récit d'un suicide, mais ce qui m'a intéressé, c'était pas tellement ça, c'était le bilan, c'était quelqu'un qui faisait le bilan de sa jeunesse, et qui savait très bien que finalement, dans une vie d'homme, ce qui est important, ce qui est grave et ce qui est beau, c'est la jeunesse. et que le reste, finalement, on va de la fin de la jeunesse jusqu'à la mort, on ne fait que se dégrader, s'abîmer et devenir une chose un peu dégoûtante, si vous voulez. C'est pas tellement le fait qu'on se mette une balle dans la tête ou dans le cœur qui est importante, c'est le fait qu'on ait un espèce d'accès de lucidité, qu'on se rende compte que il s'est passé quelque chose qui ne se passera plus, qui est cette espèce de phénomène flamboyant de la jeunesse, et que voilà, que c'est une chose qui est close et qu'il ne faut pas essayer ni de la perpétuer, ni d'essayer de vous expliquer que ce qui est important, c'est ce qui arrive aux adultes, parce que c'est, à mon avis, c'est pas vrai.
C'est évident qu'il est, que Dieu m'a donné. Je l'ai toujours traîné comme un boulet pesant, lourd de mauvais sang, de ressentiment, de rage à plein temps. Ma consommation d'acide lysergique m'a doté d'un mental schizophrénique, jouet de mes chimères aux couleurs sadiques. Je devins en somme un nazi cosmique, pendant pour les punks des mandibulés, aux cheveux oranges, turquoise ou violets, les blue jeans boisseux, la série craspec, et les bombes sexuelles qui daubaient la chenègue. 10 années plus tard, j'en avais bien marre, ruminer l'angoisse pour aller nulle part. La poudre et la seringue m'avait rendu dingue. Heureusement pour moi, il me restait mon flingue. Plus jamais seul, 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 avec une basse dose dans la gueule. Plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul, plus jamais seul. Plus jamais seul, plus jamais seul, avec une basse dose dans la gueule. Dans ce squat miteux, me servant de repère, obsédé par ma splendeur de naguère, je décidais pour apaiser mes nerfs de faire l'amour avec mon revolver. Je me suis injecté un speedball de barjo, 50 sacs d'héros, plus un demi de coco, le cœur fissuré, battant la chamade. J'étais enfin prêt pour la grande balade. Au bout d'un quart d'heure, le flash endiablé, saisissant mon arme, je la caressais. Dans ma bouche ouverte, j'en rentrais les canons, que je gratifiais d'une bonne fellation. Cette pique magistrale faite à sa personne enchanta la queue, mon Smith et Wesson, qui cracha la flamme de son feu d'acier entre mes mâchoires aux dents putréfiées. Plus jamais seul, 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 avec une basse dose dans la gueule. Plus jamais seul, 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 avec une basse dose dans la gueule.
Rock and Page, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Retrouvez tous les anciens numéros sur le blog de l'émission au http://thisisrockandpage.blogspot.com. Prenez bien soin de vous. Je vous laisse avec Belle et Sébastien.
Emotion. I am leaving many people feeling.